Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous. D'ailleurs, le standard est ouvert tout au long de la journée. Vous pouvez nous rejoindre ici à Paris à tout moment. 33 9 693 693 70. Vous nous posez vos questions et la rédaction, évidemment, se fait un plaisir de vous répondre tous les matins à cette heure-ci. Et puis, dans 30 minutes, nous reviendrons ensemble sur les 30 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Rappelez-vous, lors de son discours d'investiture, il avait promis qu'il serait le président qui allait rendre à l'Amérique sa grandeur. En tout cas, en un mois, Donald Trump a multiplié la signature de décrets, suscitant bien souvent des polémiques, notamment sur l'immigration. Il a multiplié les approximations et les mensonges. Dernier exemple en date, samedi, lors d'un meeting, il a inventé un acte terroriste en Suède. Sur la scène diplomatique, il s'est mis à plusieurs dirigeants. Bref, pour ses détracteurs, tout cela donne une impression de pagaille, d'improvisation, voire même de chaos. Alors dites-nous si le nouveau président américain a, selon vous, la hauteur, suffisamment les épaules pour être à la hauteur de sa fonction. On va en parler ensemble et vous êtes nombreux d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure pour alimenter le débat. Allez, une première question. On va parler football. On va s'intéresser au Barça. Paul, vous nous appelez de Bamako. Bonjour Paul.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. Et Lionel Messi souhaiterait plusieurs changements au sein de son club, le FC Barcelone, avant de pouvoir prolonger son contrat. Il aimerait le départ et l'arrivée de certains joueurs qui sont concernés. Le départ de Luis Enrique, son entraîneur, a-t-il été évoqué?
Ah, alors c'est vrai qu'il se dit que Lionel Messi exige des changements, sinon il pourrait bien quitter le club, c'est en tout cas ce qu'affirme un journal espagnol. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports d'RFI, ce qui est sûr au Barça, c'est la déprime, hein, la déprime depuis maintenant une semaine après la raclée infligée par les Parisiens en huitième de finale de Ligue des Champions. Lionel Messi a-t-il des exigences ?
Comme toujours avec Lionel Messi, ce n'est pas lui qui parle. Souvent, vous savez qu'il intervient très peu souvent et que, après tout, quand on l'entend parler, il dit pas grand-chose. Il en dit le minimum. Donc, il a sans doute des exigences, mais de là à affirmer que c'est lui qui veut telle ou telle chose, bon, on est beaucoup dans la spéculation. Et c'est encore le cas ici. On peut imaginer qu'il n'est pas content. Ça se voit d'ailleurs sur son visage ces derniers temps. Il n'a pas le sourire habituel. Mais et on peut imaginer aussi ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une amélioration de la compétitivité du FC Barcelone, parce que bon, le 4-0 encaissé face au PSG a vraiment marqué et les joueurs et l'équipe et le club et aussi les supporters qui ne se sont pas privés de siffler les joueurs du Barça le week-end dernier à l'occasion de leur sortie en Liga, en championnat d'Espagne.
D'autant qu'en championnat d'Espagne, ils sont certes, je crois, à un point ou deux points du Real Madrid, mais ils ont deux matchs d'avance sur le Real. Autant dire qu'il y a de fortes chances que le Real sera vainqueur de la Liga. Forte chance que le Barça sera éliminé de la Ligue des Champions. Qu'attend Messi? Parce qu'on spécule des changements, mais quels changements?
Non, tout ce que là où il y a unanimité, c'est qu'il y a eu des erreurs dans le recrutement. Donc il y a des joueurs qui ne collent pas dans cette équipe. Lucas Digne, le Français, par exemple, ne s'impose pas. André Gomes, le milieu de terrain portugais qui avait brillé à l'Euro, là c'est encore une erreur de casting et le pauvre a pris cher après ce 4-0. Et bon, l'équipe a pas été bonne contre le Paris Saint-Germain dans son ensemble, mais André Gomes particulièrement a été ciblé. À ces erreurs de recrutement s'ajoute aussi le vieillissement, entre guillemets, même si faut toujours se méfier quand on parle de vieillissement de certains joueurs. Busquets, par exemple, il est fatigué, il est moins performant qu'avant. Iniesta, on a beau avoir adoré ce joueur, il ne peut plus enchaîner. C'est vrai qu'on regarde toujours le déclin de ce genre de joueur avec un sourire un peu triste, tellement ils nous ont donné de bonheur, mais Iniesta n'est plus au même niveau, n'est plus capable de rééditer des performances en série comme il a pu le faire au cours de son immense carrière. Bref, on arrive quand même à un carrefour pour le FC Barcelone. Et effectivement, comme le disait Paul, Il y a aussi la question qui se pose
de l'entraîneur,
de Luis Enrique, parce que il arrive en fin de contrat au mois de juin, parce que le FC Barcelone lui a proposé une prolongation de contrat, que lui, à qui on demandait de donner une réponse au plus tard en décembre 2016, eh bien, il a demandé un délai de réflexion, et pour l'instant, on en est là. Et si vous ajoutez à ça le fait que Messi, il est sous contrat avec le FC Barcelone jusque l'année prochaine, jusqu'en 2018, donc c'est-à-dire demain, on parle quand même de Lionel Messi, c'est-à-dire
la star internationale,
le meilleur joueur du monde. Avec Cristiano Ronaldo. Oui. Voilà, tout est réuni pour qu'il y ait énormément de spéculation, mais j'ai apporté une petite nuance à ce que vous disiez. La Liga n'est pas encore perdue, Juan.
C'est
parce
vrai.
Qu'il n'y a qu'un point. Parce que on va.
Il y a deux matchs de retard.
C'est vrai. On va en savoir plus avec ce match. Alors le Real va rattraper l'un de ses matchs de retard avec un déplacement à Valence, là où il a souvent du mal. Et puis le week-end prochain, le Barça va jouer à Madrid contre l'Atlético. Donc vous voyez que là, il y a des réponses qui vont être apportées, pas définitives, mais en tout cas, le Barça va jouer beaucoup dans la semaine qui vient.
Voilà, Paul. Soyez patients, attendez quelques semaines et on y verra plus clair. On vous souhaite une bonne journée à Bamako, Paul. Merci à vous et merci à Christophe Jousset du service des sports. 33 9 693 693 70. Désiré nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Désiré.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions sur la lutte contre le blanchiment d'argent au Vatican?
Oui, la Banque Vaticane a lancé la lutte contre le blanchiment d'argent débutée en 2013. On vient d'apprendre que cette même banque a gelé 2 millions d'euros d'espèces. J'aimerais savoir à qui appartient ce compte et quel est le nombre de comptes gelés.
Alors, c'est vrai qu'on l'a appris il y a quelques jours, le Vatican a gelé 2 millions d'euros d'origine douteuse déposés sur les comptes de la banque de l'État pontifical, dont la réputation est pour le moins sulfureuse, la fameuse banque Institut des œuvres religieuses. Ce n'est pas la première fois que le Vatican essuie des scandales. Rappelez-vous, dans les années 80, cette banque comptait parmi ses clients des mafieux notoires. Bonjour Olivier Bonnel.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI au Vatican. Sait-on qui sont les propriétaires de ces fameux comptes ?
Eh bien écoutez, il est difficile de le savoir parce que la culture du secret derrière les murs rail Vatican est toujours très forte. Ce qu'on sait, c'est que l'agence d'information financière du Vatican, l'AIF, a annoncé avoir fermé près de 5000 comptes en banque suspects ces trois dernières années. 14801 comptes exactement sont toujours actifs. Et au total, de 2013 à 2016, ce sont près de 13 millions d'euros qui ont été gelés. Ce que l'on peut dire, c'est que le IOR, donc cette banque du Vatican, gère les comptes et les dons de nombreux congrégations et œuvres religieuses partout dans le monde, et la majorité donc de ces comptes appartiennent à des institutions. En revanche, d'autres comptes appartiennent eux à des laïcs, des privés, et certains n'ont rien à voir avec le Vatican, des personnes qui ne travaillent dans aucune structure du Saint-Siège. Il pourrait s'agir d'entrepreneurs, le plus souvent italien, et pas plus tard qu'hier, on a appris qu'une enquête avait été ouverte contre un banquier italien, Gian Pietro Natino. Il est soupçonné de blanchiment d'argent et il aurait fait transiter justement cet argent, notamment via le IOR, avant de l'expédier en Suisse, peu de temps avant que le Vatican ne renforce ses règles en matière de transparence financière.
Donc, grand mystère autour des propriétaires de ces fameux comptes. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est cette somme de 13 millions d'euros gelée entre 2013 et 2016, donc ces trois dernières années. Vous avez une autre question, Désiré?
Oui, et quelles sont les conséquences dans la gestion de l'Institut des œuvres religieuses?
Les conséquences de ces scandales?
Oui.
Ouais. Olivier Bonnel.
Je dirais qu'il faudrait en fait retourner la question, parce que c'est justement la meilleure gestion de l'IOR ces dernières années qui permet de déceler ces scandales, hein, de traiter les opérations financières suspectes et donc de fermer des comptes. C'est la mise en place, rappelons-le, par Benoît XVI fin 2010 de l'AIS, cette autorité d'information financière qui a permis d'accélérer la transparence, un travail poursuivi aujourd'hui par le pape François. Et puis en 2011, le Vatican avait adhéré au processus Moneval. Moneval, c'est l'organisme du Conseil de l'Europe chargé de lutter contre le recyclage et le blanchiment des capitaux.
Ouais, ce qu'il faut dire, Olivier Bonnel, c'est que le Vatican laisse aussi la justice faire son travail.
Oui, absolument, Juan. Il y a un mois, en effet, un tribunal de Rome a requis 1 an et 10 mois de prison contre l'ancien directeur général de Lior, Paolo Cipriani, et son bras droit, Massimo Tulli. Ils sont tous les deux accusés d'avoir transféré 23 millions d'euros de la Banque Vaticane vers JP Morgan Francfort, et ce, via une banque italienne. Les faits remontent à 2010. Néanmoins, ce scandale a du bon, car il force le Lior à poursuivre son opération transparence et à accélérer ses réformes. Et même si Moneval a salué des progrès, l'organisme du Conseil de l'Europe demande d'en faire encore plus. Et il y a du travail, on peut le dire. Une trentaine de comptes seraient particulièrement suspects et toujours pas fermés. Ils seraient liés à des opérations de blanchiment d'argent, des paradis fiscaux, et certains regarderaient même du côté des services secrets américains. Bref, vous le voyez, lorsque l'on parle de la Banque Vaticane, on voit que les vieux fantômes ne sont toujours pas encore sortis du placard.
Effectivement. Désiré, on a répondu à vos deux questions.
Oui, je suis satisfait.
Eh bien, bonne journée à Lomé et un grand merci à Olivier Bonnel, correspondant d'RFI au Vatican. 9h20 à Paris, 33 9 693 693 70. Houda Ibrahim du service Afrique d'RFI est à mes côtés. Bonjour Houda.
Bonjour Juan.
Je vais me faire le porte-parole d'Abdel Kudus. Dommage pour lui, mais pour une fois qu'on a un appel qui nous vient de Libye, ils sont rares les appels de Libye. Il nous écoute à Oubari, c'est dans le centre-ouest de la Libye, si je me trompe pas. Vous connaissez bien ce pays, Houda. Et notre auditeur revient sur la situation dans ce pays, où règne le chaos depuis maintenant 6 ans, depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et notre auditeur ne comprend pas pourquoi le gouvernement d'Union nationale, mis en place par les Nations Unies, après l'accord conclu il y a plus d'un an au Maroc, eh bien pourquoi ce gouvernement ne fonctionne pas, pourquoi il ne parvient pas à asseoir son autorité sur le territoire libyen. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui bloque pour que ce gouvernement puisse fonctionner?
Beaucoup de choses. Il y a d'abord la question de la confiance chez une grande partie des Libyens. Il y a une sorte de croyance comme quoi ce gouvernement est un peu un gouvernement comme Hamid Karzai en Afghanistan après l'intervention américaine. Donc cette confiance ne s'installe pas. En plus, ce gouvernement n'a pas de force, n'a pas des militaires, n'a pas des polices. Il a pas, il n'arrive pas à asseoir son autorité parce que également il est considéré comme la face caché de l'islam au pouvoir en Libye. Donc, il est accusé d'être le représentant, en quelque sorte, des frères musulmans. Et c'est ce qui a conduit jusqu'à maintenant, entre autres, beaucoup de complications, l'accord politique qui ne fonctionne pas, parce que c'est l'accord politique qui a amené ce gouvernement. Donc, c'est
l'accord
tous
politique,
ces
c'est l'accord signé au Maroc, sous l'égide des Nations Unies, en décembre 2015.
En décembre 2015, ouais. Et qui, maintenant, ne fonctionne pas, et tout le monde est d'accord pour le changement de cet accord.
Alors justement, Abdel Kudus nous demandait et nous disait, voilà, le médiateur de l'ONU a évoqué de possibles amendements à cet accord interlibyen. Sur quoi pourraient porter ces amendements?
Alors d'abord, on sait, et on l'a déjà dit, que avant le Parlement, le chef du Parlement, c'est lui qui dirigeait l'armée. Et aujourd'hui, et avec l'accord de Sraïrat, signé au Maroc, donc c'est le chef du gouvernement qui devait donner des ordres à l'armée. C'est ce qui n'est pas accepté. Et aujourd'hui, on a étudié et un peu, on est d'accord pour qu'il y ait un conseil, un haut conseil, un peu au-dessus du gouvernement, composé de plusieurs personnalités, dont le maréchal Haftar, qui doit diriger cette armée.
Oui, le maréchal Haftar qui contrôle une grande partie de l'Est de la Libye et qui a été exclu de ce fameux accord politique conclu en décembre 2015 au Maroc.
C'est pour ça qu'il n'accepte rien aujourd'hui, parce qu'il a été exclu et il cherche aujourd'hui à avoir le pouvoir non seulement militaire mais aussi politique. Et c'est pour ça qu'il y a eu un échec durant la rencontre annoncée mardi, il y a 10 jours, au Caire, entre lui et Sarraj. En fait,
Sarraj, le Premier ministre. Reconnu par la communauté internationale.
Exactement. Et donc, malgré les efforts de du Caire qui a réuni énormément de personnalités libyennes, y compris des islamistes, mais pas les frères musulmans, ces efforts jusqu'à maintenant n'ont pas abouti parce que également la rencontre devait être tripartite et donc elle devait regrouper le chef du Parlement, À l'est du pays, c'est un parlement élu, reconnu, mais qui a dépassé sa mission, c'est-à-dire dans le temps, maintenant.
C'est un parlement qui a dépassé son mandat. Institutionnellement parlant, il n'a aucune valeur et il n'est pas reconnu par la communauté internationale non plus.
Et donc, ils n'ont pas confiance à Sarraj le 2. Personne, mais ses efforts continuent en Tunisie et à Alger. Ce qui a compliqué encore ce dossier libyen et cette rencontre, c'est la fin de mission de l'émissaire de l'ONU, Kobler, qui arrive à la fin le 28 février. Et la personne qu'on a nommée, le Palestinien Salam Fayyad, les États-Unis ont mis leur veto, ce qui montre aujourd'hui que même la communauté internationale est divisée par rapport à la solution qu'on peut trouver pour la Libye.
Alors qu'il y a urgence, puisqu'on le rappelle, le pays est vraiment plongé dans le chaos et on ne voit pas encore d'issue politique. Merci beaucoup, Ouda Ibrahim, d'être venu répondre à Abdel Kudus, qui nous écoute à Oubari, donc dans le centre-ouest de la Libye. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Rouen, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Togo, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions ?
Voilà, alors, Marine Le Pen, candidate aux élections présidentielles en France, s'est rendu au Liban pour rencontrer le président Ali Aoun. Emmanuel Macron aussi y était avant d'aller en Algérie. Alors ma première question est de savoir quel intérêt les candidats français aux élections présidentielles ont à se rendre au Liban et en Afrique.
Ah, ça c'est une excellente question. Pourquoi le Liban ? Il y a eu effectivement en janvier Emmanuel Macron, ces deux derniers jours Marine Le Pen, François Fillon lui aussi avait prévu de s'y rendre. Bonjour Karim Émile Bitard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, où vous êtes en ce moment, et vous êtes directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Pourquoi le Liban attire-t-il autant les candidats à l'élection présidentielle française ?
La plupart des candidats cherchent aujourd'hui à se doter d'une stature internationale, et paradoxalement, le Liban, que l'on présentait comme le pays le plus fragile du Moyen-Orient, est aujourd'hui le pays qui résiste le mieux à la tourmente. Il y a toujours une sécurité relative, une harmonie relative entre les communautés, et c'est un pays où il y a une très grande liberté d'expression, où tout le monde peut bavarder avec tout le monde, présenter des idées, ce qui a permis à chacun des candidats, à travers le passage à Beyrouth, de commencer à élaborer une doctrine de politique extérieure. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il a dit qu'il se revendiquait du gaulo-mitterrandisme, qu'il a souhaité développer une vision plus neutre du conflit syrien que celle de François Hollande, un peu plus mesurée. Et c'est ce qu'essaie aujourd'hui de faire Marine Le Pen.
Ouais. Donc c'est le pays du Proche-Orient où on peut aborder effectivement des questions internationales. La question syrienne, vous le disiez à l'instant. La problématique des réfugiés, on sait que ce sont deux thématiques importantes de la campagne électorale en France. Certains, alors peut-être les mauvaises langues, disent au Liban c'est aussi un moyen peut-être, il y a énormément d'hommes d'affaires, donc un moyen de trouver des financements pour la campagne électorale. Vous en pensez quoi, vous, Karim Émile Bitard ?
Les informations qui ont circulé là-dessus au sujet de levée de fonds qui auraient été effectuées par Emmanuel Macron se sont avérées plutôt infondées. Ceux qui ont suivi de près cette visite, les journalistes ont démenti qu'il y ait eu des dîners avec des hommes d'affaires qui auraient payé assez cher leur place. Donc je crois qu'il faut être prudent pendant la campagne, car beaucoup d'adversaires politiques des uns et des autres peuvent faire circuler ce type de rumeurs. Mais il est certain qu'il y a un système bancaire au Liban assez florissant et que cela peut susciter des convoitises. Marine Le Pen a elle-même dit ouvertement, si des banquiers libanais souhaitent me prêter de l'argent, ce serait très bien pour nos relations à l'avenir. Donc elle ne ferme pas la porte à cela, mais à ce stade-là, je crois qu'il cherche surtout à adresser des messages à l'électorat en France, parce que le nombre de Français expatriés au Liban est relativement réduit. Ils ne viennent pas véritablement gagner des voix, faire campagne auprès des franco-libanais.
17 000.
Ils cherchent surtout, 17 000. À travers la question notamment des chrétiens d'Orient, à gagner des électeurs en France même.
Oui, effectivement, il y a 17 800 inscrits d'expatriés franco-libanais au Liban, et d'ailleurs 68% d'entre eux en 2012 avaient voté Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth, Karim Émile Bitard, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph. Dans un instant, on va retrouver toute la rédaction Afrique des RFI pour un dernier point complet ce matin de l'actualité, évidemment, et on reviendra tout de suite après dans 10 minutes avec vos réactions, vos commentaires concernant les 30 premiers jours de la présidence Donald Trump.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent. Du 21 au 25 février,